И наш последний сегодняшний докладчик Дагмар Грамс Хаммерхоль, Грац, университет Граца, Австрия. Пожалуйста.
Pour les immigrants russes de la première vague, la mémoire de la patrie perdue est d'une importance capitale. Les œuvres littéraires créées par ceux qui étaient ou se sentaient obligés de s'exiler suite à la révolution de 1917 témoignent d'une nostalgie profonde de la Russie abandonnée, c'est-à-dire d'une souffrance causée par le désir inassouvi de retourner, au sens propre du mot. Vladimir Nabokov, dans son premier roman « Mashenka », qualifie l'expérience de l'exil de « notre grande attente », à savoir l'attente du retour final, « наше великое ожидание ». L'épisode des deux personnages principaux bloqués dans l'ascenseur est une image forte qui sert à illustrer la situation des immigrés. Immobilisés, ils sont capables ni de retourner, ni d'avancer. Et dans l'espoir de regagner un jour ce qu'ils ont perdu, ils demeurent dans un état de rétrospection permanente. Or, le discours mémoriel de la Russie hors frontières opposait ceux qui avaient la mémoire de la patrie abandonnée à ceux qui n'en avaient guère ou pas. À cet effet, on avait recours à des métaphores générationnelles, ou en d'autres mots, à une rhétorique générationnelle. Évidemment, il ne s'agit pas de vraie génération. En parlant de génération ou même de fracture générationnelle, on voulait en fait dire quelque chose d'autre. C'est ce que cette intervention tente de démontrer en se référant à des œuvres littéraires et à des critiques littéraires choisies. Il faut tout d'abord se poser la question de savoir ce qu'est de fait une génération. Fréquemment et à tort, la notion de génération est assimilée à celle de cohorte. Par le fait même, l'idée de génération est associée à l'âge biologique, comme si l'appartenance à une génération était quelque chose de naturel, de préconditionné par les circonstances de naissance. Cependant, il ne suffit pas qu'une catégorie de population ait à peu près le même âge pour être considérée comme une génération. Il faut plutôt que des personnes soient soumises à des conditions historiques et sociales identiques et qu'elles participent à leur sort commun d'une façon semblable. Selon l'expression de Sigrid Weigl, la notion de génération est caractérisée par une double sémantique. D'une part, au sens familial du terme, elle comprend l'idée de continuité et de tradition. D'autre part, elle peut servir également à exprimer la conception de rupture fondamentale. Dans ce dernier cas, les jeunes sont opposés aux aînés dont ils prennent le relais, ce qui veut dire que le nouveau l'emporte sur l'obsolète. Vu sous cet angle, il est évident qu'il est nécessaire de se demander qui utilise la notion de génération et dans quel but. Est-ce qu'il s'agit d'une attribution à partir de l'extérieur ou bien d'un mode d'auto-thématisation? Bien sûr, le concept de génération, de même que dans un sens plus étroit de génération littéraire, est utilisé également en tant que catégorie d'analyse. Cependant, il se peut qu'en l'occurrence, la recherche adopte une formule d'auto-thématisation à défaut de la remettre en cause et de la contextualiser. Tel est souvent le cas dans les études de la génération inaperçue, c'est-à-dire la jeune génération d'écrivains russes exilés de l'entre-deux-guerres. Irina Kaspe a démontré qu'il s'agit là d'un paradoxe. L'autothématisation comme génération inaperçue représente une stratégie, un masque littéraire qui, en fait, sert aux jeunes écrivains pour être perçus. Il importe donc que nous nous posions la question de savoir dans quel contexte le changement et le conflit culturel sont expliqués comme le résultat d'une différence de génération. Et plus concrètement, pourquoi, dans quel but et avec quel effet le discours mémoriel de la Russie hors frontières a-t-il recours à une rhétorique générationnelle? Le nom même de Russie hors frontières indique que dans le discours de l'émigration russe, La Russie est une construction idéale qui comprend tout ce qui est associé avec la Russie d'avant 1917. Ses valeurs, ses traditions, son style, l'héritage spirituel de ses figures éminentes. De façon tout à fait cohérente, cette Russie peut donc se déplacer. Elle peut être emportée, pour reprendre l'expression de Raman Gul, qui a intitulé son apologie de l'immigration « J'ai emporté la Russie » (Я унес Россию). L'image de la Russie emportée se trouve déjà dans un article de Mikhail Tsetlin, dans lequel nous lisons les mots suivants. Иммиграция означает не то же самое для писателя, созревшего в России, или молодого иммигранта. Писатели старшего поколения принесли на подошвах комочек земли из своих уездов, унесли с собою родину. Ну а как же те, которые никогда ни в каком Белевском уезде не были? Заменят ли им Париж и Алжир, Китай и Константинополь, бесценные, художественно пережитые, живущие в душе, в художественной памяти родные Белевские уезды? La Russie emportée par les émigrés est considérée comme la Russie vraie, originale, à l'inverse de la Russie soviétique, qui est regardée uniquement comme une Russie déformée, sinon comme un nom vide, privé de tout son sens. Aussi, les émigrés russes de la première vague se donnent-ils pour mission de préserver la mémoire de cette Russie originale et de la transmettre aux générations à venir pour qu'un jour elle puisse être ressuscitée. Dans ce contexte, le point commun qui crée un lien entre les émigrés russes et leur origine. Par rapport à celle-ci, les autres facteurs distinctifs, tels que le statut social ou l'identité professionnelle, passent au second plan. Or, les concepts d'origine, d'ascendance, d'héritage et de mission éducative s'inscrivent dans le champ sémantique de la génération. Pour cette raison évidente, les exilés choisissaient de parler plutôt d'appartenance générationnelle pour mettre en avant ce qui les reliait. Toujours est-il que dans ce cas-là, le discours générationnel sert à exprimer quelque chose d'autre. En parlant d'appartenance générationnelle, les immigrés en fait parlaient d'appartenance nationale, d'appartenance à la Russie d'avant la Révolution. Ceci est révélé très clairement dans le discours largement répandu dans l'immigration russe de l'entre-deux-guerres sur la dénationalisation, dénationalisation de la jeune génération. Marc Aldanov, par exemple, fait l'observation suivante dans une lettre à Alexandr Amfitiatrov, rédigée le 15 février 1936. Молодое поколение нас всех не читает. Оно денационализируется не по дням, а по часам, по крайней мере во Франции, не знаю, как у вас. А старше вымирает. Selon Tatiana Saburova, il est révélateur que les générations des aînés et des jeunes soient opposées en fonction de la conservation et de la perte de l'identité nationale, la dernière étant étroitement liée à la littérature russe en tant qu'élément clé de la transmission de valeurs culturelles. Dans le même ordre d'idées, Марк Раев constate « Иммигранты создали зарубежную Россию именно для того, чтобы передать своим детям взгляды на сущность истинной русской культуры. Какие бы разногласия о сути русской культуры и ее традициях не возникали среди эмигрантов, они преодолевались ради молодого поколения, которому, как они считали, предстоит в будущем создать новую свободную Россию. Maria Rubins a démontré que dans le discours des émigrés russes en France, ce qui met le plus en péril leur identité nationale, c'est la vie dans l'environnement cosmopolite de la métropole de Paris. Pour les Russes, la manière la plus efficace de lutter contre le danger d'être assimilé est donc de quitter la capitale et de s'installer à la campagne. Сесть на землю. C'est du moins la solution propagée par le protagoniste du premier roman de Нина Берберова, Последний первый. Илья, qui affirme. Земля – самая близкая нам стихия. Мы на земле всегда у себя. Да, русским одно спасение от денационализации – это земля. Gato Gazdanov participait lui aussi aux discussions sur le danger de la dénationalisation des immigrés, quoique ce soit dans un article teinté d'ironie, intitulé « La dénationalisation des jeunes russes en France ». Dénationalisация русской молодежи во Франции. Il écrit. Печальная истина, неоднократно отмечавшаяся на страницах русской заграничной прессы и заключающаяся в том, что русской молодежи во Франции угрожает опасность ассимиляции, нашла недавно свое очередное подтверждение на страницах одного из лучших художественных журналов эмиграции. Старожилы эмиграции до сих пор вспоминают о том времени, когда Дебор был молодым русским поэтом, свободно объяснялся и даже писал на родном языке. Прошло несколько лет, и, увы, Дебор, до сих пор еще владеющий русской разговорной речью, уже не может более писать на родном языке и принужден прибегать к услугам переводчиков. Выражаем Дебору наши соболезнования, равно как и благодарность неизвестному переводчику, которому мы обязаны тем, что статьи Дебора, хотя и на французском языке, но проникнутые русским национальным духом, все же появляются на страницах нашей прессы. Selon Maria Rubins, qui a consacré son étude à la jeune génération d'écrivains russes qui fréquentaient les cafés du Montparnasse, русский Монпарнас, celle-ci s'est en effet dénationalisée. Apparemment, elle développait dans ses œuvres une forme d'écriture hybride et transnationale qui franchissait les frontières des langues, traditions et canons nationaux. Il s'agit là du cas particulier d'une génération littéraire qui manifeste cependant de manière exemplaire le fonctionnement des métaphores générationnelles dans le discours mémoriel des exilés russes. Nous avons vu que les jeunes, en quelque sorte, servaient aux aînés de murs de projection. À part cela, ils restaient dans leur ombre. Cette idée a été exprimée par la formule de génération inaperçue, незамеченное поколение, par Vladimir Varshavsky dans une série d'articles des années 30 et plus tard, en 1956, dans son livre éponyme. L'auteur décrit cette génération comme suit. Сколько им лет? Большинство из них родилось в первом десятилетии века. Они успели получить в России только начальное воспитание и попали в эмиграцию недоучившимися подростками. Старшие из них прошли в рядах добровольческой армии через гражданскую войну. Большинство же покинуло родину почти детьми. Они еще помнят Россию и на чужбине чувствуют себя изгнанниками. В этом их отличие от последующих эмигрантских поколений. Но воспоминаний о России у них слишком мало, чтобы ими можно было жить. В этом их отличие от отцов. Les jeunes n'ont donc pas assez de souvenirs de la Russie pour pouvoir s'en nourrir. C'est ce qui distingue les fils de la génération des pères. Варшавский poursuit. Выключенные из цепи поколений, они жили где-то вне истории, сбоку. Люди старшего поколения искали выхода в воображаемых путешествиях по раю прежней России, в действительности переставшей существовать. Но иммигрантские сыновья не имели доли в этом общемигрантском, потерянном и найденном времени. Évidemment, les bouleversements et pertes qui suivaient la révolution russe sont vécus ou pour le moins représentés par les immigrés comme une rupture des liens intergénérationnels. La caractéristique essentielle de la jeune génération inaperçue est l'absence de mémoire vivante de la Russie abandonnée. Fyodor Stepun, en 1935, s'est prononcé de la même manière en disant « Круг воспоминаний у всякого молодого писателя мал. С чисто художественной стороны литература воспоминаний подстерегает к тому же смертную опасность эстетического эпигонства, слабого подражания видным писателям прошлой эпохи, но без их чутья к своезаконию и беззаконию русского языка, без их органической связи с бытовой толщей России, без их чувственного ощущения ее запахов, красок, воздухов, влажностей, всей ее биологической плотяной единственности. La présence ou bien l'absence d'une telle mémoire vivante n'est pourtant pas une question d'âge. Par exemple, Aldana et Amphithéâtre, cités ci-dessus, qui dans leur correspondance s'identifient comme membres de la même génération d'aînés, font partie de cohortes différentes. Tandis qu'Amphithéâtre est né en 1862, l'année de naissance d'Aldanov est 1886. Irina Kaspe donne d'autres exemples. Yuri Felsen, l'un des personnages principaux de la jeune génération, est du même âge que ceux qui s'ingéniaient à endosser le rôle d'instructeur et de mentor aîné, Georgi Adamovich, Georgi Ivanov, Nikolai Otsup ou Mark Slonim. Marina Tsetaeva, qui incarnait pour les jeunes hommes de lettres non seulement la génération aînée, mais encore l'autre monde, le monde non émigré, avait le même âge que Yuri Terapian, qui s'identifiait vivement avec la jeune littérature émigrée. Tous deux sont plus jeunes que d'autres jeunes écrivains, Ekaterina Bakunina ou Sergei Charchoun. Charchoun, à son tour, n'est né que 2 ans plus tard que le critique d'autorité Vladislav Khodasevich et Alfred Behm, pour ne citer que quelques exemples. La notion de génération n'a donc rien à voir avec l'âge effectif de ses membres supposés. Elle sert plutôt d'instrument pour se positionner ou pour être positionné dans le discours national de la Russie hors frontières. Irina Kaspi exprime cette idée ainsi. Для русских иммигрантов поколение подразумевает в первую очередь возможность символического продления национальной истории. При помощи поколенческих терминов обозначается сбой репродуктивных механизмов и одновременно надежда на их восстановление. Le caractère relatif de la notion de génération devient particulièrement évident si l'on prend en considération la façon dont elle était utilisée à la même époque en Union soviétique. La révolution de 1917 avait eu lieu sous le signe de la jeunesse. Lénine aurait affirmé que le pire des péchés est d'avoir plus de 55 ans. Dans ce contexte, les plus âgés appartenaient à l'ancien monde que l'on visait à surmonter. Ils étaient considérés comme des vestiges ambulants du passé, пережитки прошлого. L'appartenance à la génération aînée était interprétée d'une manière négative. Les plus âgés, c'étaient les anciens, donc les représentants de l'ancien régime, les aristocrates et les bourgeois. Conséquemment, l'identité générationnelle représentait un moyen de parler de l'appartenance à une classe sociale. Contrairement aux vestiges du passé, la première génération soviétique était celle de l'homme nouveau, élevé et éduqué entièrement dans les conditions égalitaires d'une société socialiste. En réalité, comme l'a constaté la dissidente Lyudmila Alexeeva, cette jeune génération soviétique a été élevée par une légion de grands-mères. C'est l'ironie de l'histoire. Selon Boris Dubin, la formule « père » et « fils » représente pour la Russie un concept clé. Dans le contexte russe, et surtout dans le contexte de l'émigration russe, la notion de génération fait fonction de catégorie de rupture. Pour citer Dubin, «Категория поколения между старшими и младшими фиксируется разрыв, обрыв смысловой линии, забывание смысла, неполучение опыта, факт, что важные ценности и значения, рамки их упорядочения и осмысления уходят». Исчезают из поля зрения, разрушаются. La force cohésive de la tradition, qui est à la base de la génération au sens familial du terme, est remplacée par l'idée d'une fracture générationnelle formulée en termes de mémoire et d'oubli, забывание. Marietta Chudakova a observé que le concept de génération, dans le sens d'une catégorie de rupture, émerge dans les moments critiques d'une société. Dans les sociétés stables, semble-t-il, on n'en a pas besoin. Dans le contexte précaire de l'exil, au contraire, il revêt une actualité particulière. Cette intervention a tenté de démontrer que la recherche doit éviter d'avoir recours à une notion aussi chargée. Il vaut mieux la réserver aux poètes. Je voudrais ainsi conclure mon exposé en me référant au vers suivant du poète émigré russe Владимир Ходосевич. И весело, и тяжело нести дряхлеющее тело, что буйствовало и цвело, теперь набухло и дозрело. И кровь по жилам не спешит, и руки повисают сами. Так яблонь осенью стоит, отягощенная плодами. И не постигнуть юным вам все нежности неодолимой, с какой хочется ветвям коснуться вновь земли родимой.